Studio Tamani, voici nos informations en français.
Vous écoutez bien sûr le programme du Studio Tamani. Voici la synthèse de cette édition matinale. 1480 personnes ont perdu la vie l'année dernière au Mali suite au paludisme. La maladie représente 34% des consultations dans les structures hospitalières, rappelle le programme national de lutte contre le paludisme. Flambée des prix des produits dans le pays, certains produits comme le mil sont en hausse, mais le gaz est en train de revenir à la normale. Des consommateurs demandent une stabilisation des prix. Le dossier de la rédaction s'intéresse au Bani Hari, une boisson traditionnelle fortement consommée à Tombouctou. Faite à base d'ingrédients locaux, elle est très prisée pendant le Ramadan. Auditeurs, auditrices, bonjour et bienvenue à la présentation. Mariam Maïga, Mamadou Ouattara assure la technique. Je vous le disais dans les titres, au Mali, le paludisme reste un réel problème de santé publique. Le Programme national de lutte contre la maladie a rappelé hier qu'il représente 34% des consultations dans les établissements de santé. C'était lors d'une conférence de presse tenue à Bamako. Le système local d'information sanitaire souligne aussi que l'année dernière, des établissements de santé ont enregistré le décès de 1480 personnes dans le pays suite à cette maladie. Ce chiffre représente un recul pour l'Organisation mondiale de la santé, explique des spécialistes. Alice ici.
Selon le Programme national de lutte contre le paludisme, les établissements de santé ont enregistré en 2021 plus de 3 millions de cas confirmés de paludisme, parmi lesquels on note plus de 2 millions de cas simples, plus d'1 million de cas graves et 1480 décès. Une hausse due en partie à la crise sanitaire liée à la COVID-19. Selon Mme Aïssata Kone, médecin lieutenant-colonel, directrice du Programme national de lutte contre le paludisme.
Par rapport aux décès, il y a une part qui peut être attribuable à la maladie à COVID-19. Avec l'avènement de cette maladie, il y a eu une baisse de la fréquentation des structures de santé. Quand nous prenons aussi l'augmentation des décès, ça peut être dû aussi à un recours tardif de la prise en charge de ces différentes maladies-là.
Pour sa part, l'Organisation mondiale de la santé estime que cette flambée des cas de paludisme représente un recul dans la lutte contre l'élimination de cette maladie. Selon son représentant au Mali, cette situation interpelle plus d'un. Il faut penser à aller vers des innovations en vue d'éradiquer le paludisme à l'horizon 2030, dit Dr Boubacar Sidibé, représentant de l'OMS au Mali.
Si nous faisons la différence pour mesurer le progrès, nous allons dire en d'autres termes qu'on n'a pas beaucoup progressé, qu'on est en train de reculer. Ça veut dire que nous avons encore beaucoup d'efforts à faire. C'est ce qui nous interpelle pour aller vers des innovations afin de réduire le nombre de cas de paludisme et aussi d'éviter les décès par rapport à cette maladie.
La 15e édition de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme sera célébrée le 25 avril prochain. Pour cette édition, le thème retenu est « Innover pour réduire la charge du paludisme et sauver des vies ».
Un compte rendu signé Ali Cissé. Rejoignez la communauté Studio Tamani en laissant vos critiques et suggestions sur notre page Facebook ou encore sur Twitter. Studio Tamani. Autre titre, le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga est attendu ce jeudi 21 avril au Conseil national de transition. Cette interpellation est la meilleure occasion pour expliquer aux Maliens les réalisations faites dans le cadre du plan d'action gouvernemental. C'est ce qu'indiquent des partis politiques qui soutiennent la transition. Le cadre d'échange des partis The Regroupement politique déclare que cette interpellation du PM ne fait craindre aucune motion de censure. Intala Agbilal.
Pour le président de la Convention pour le Mali CPM, cette interpellation du Premier ministre devant le CNT constitue une aubaine au chef du gouvernement pour expliquer ce qu'il a fait. Docteur Alaï Bokoum prédit déjà des débats de qualité et sans animosité.
J'ai plutôt tendance à dire qu'en tout cas le gouvernement aura une très belle aubaine pour expliquer aux Maliens ce qu'il a fait depuis 10 mois. Il y a des choses qui sont à l'œil parmi les 4 axes que le PAG avait présentés, ça de la sécurité, les réformes, la lutte contre la corruption, l'organisation de bonnes élections et puis l'apaisement du climat social.
Pourtant, pour le cadre d'échange des partis et regroupements politiques, la présence du PM devant le CNT n'est pas une interpellation, mais une simple invitation à la session inaugurale d'avril. Pour Amadou Aya, le chef du gouvernement est déjà rassuré qu'il ne serait pas pas inquiété par les dossiers brûlants de l'air. Amadou Aya, premier secrétaire général du CODEM, membre du cadre d'échange.
Ce que nous connaissions, le premier ministre, généralement, s'il y a une motion de censure contre le premier ministre, c'est lui qui venait devant l'Assemblée. S'il vient présenter le CNT et que ce n'est pas satisfaisant, en principe, si c'était une motion de censure normale, c'est que le premier ministre allait être démis ou en tout cas il allait être déposé.
Enfin, certains responsables d'associations et regroupements de la société civile souhaitent que le premier ministre soit surtout interrogé sur les dossiers qui traînent encore, notamment le chronogramme électoral, les réformes politiques et institutionnelles et la levée des sanctions de la CEDEAO.
Partons à Tombouctou pour parler de la mise en place d'une commission pour veiller à la sécurité. Sur place, la population vit une situation sécuritaire dégradée avec des attaques ciblées depuis un certain temps. Pour mettre fin à ce phénomène, une commission de bons offices a été mise en place par les autorités locales. Elle est composée de représentants de différentes communautés de la localité. Selon les membres de cette commission, l'objectif est de mettre fin aux hostilités et de ramener la paix à Tombouctou et à Taoudeni. Aboubakri Sissé est le maire de Tombouctou et président de la dite commission. Il est joint par Mahaman Babakunta.
Cette commission, elle est inclusive des représentants des Sarabs, des représentants des Touaregs, des représentants des sédentaires. La peine que j'ai à lancer à l'ensemble des communautés de Tombouctou, c'est de faire en sorte que nous soyons unis contre cette insécurité. Parce que cette insécurité, nous en sommes tous victimes, qu'ils soient sédentaires, qu'ils soient arabes, qu'ils soient touareg, nous sommes tous victimes de cette insécurité. Donc, nous allons faire en sorte de l'appel que j'ai fait de rappeler à toutes les communautés de Tombouctou et de Taoudeni que nous devons nous donner la main parce que nous sommes tenus d'être ensemble pour rendre la vie meilleure, pour rendre la vie possible pour nous et pour toutes les communautés que nous avons la charge.
Toutes nos excuses pour la qualité sonore de cet élément. C'était là Aboubakri Sissé, maire de la ville de Tombouctou et président de la commission mise en place pour veiller à la sécurité et ramener la paix à Tombouctou et à Taoudeni. Parlons à présent de la flambée des prix des denrées en cette période de Ramadan. Le mil et le gaz sont parmi les produits les plus consommés. Toutefois, le prix du mil connaît une nouvelle augmentation de 100 francs CFA à Bamako. Mais celui du gaz est en train de revenir à la normale dans la capitale. Le prix varie actuellement entre 3 000 et 3 500 francs CFA par endroit. Le point avec Mariam Koulibaly.
En plus de sa cherté, le mil n'est pas abondant dans différents marchés de la place. Cette situation s'explique par la mauvaise pluviométrie enregistrée lors de la campagne agricole et la situation sécuritaire du pays. De 200 francs, le kilogramme du mil est passé à 400, puis à 500 francs CFA.
Avant le mois de Ramadan, le prix n'avait pas atteint 450 francs. Il variait entre 350 et 300 francs le kilo. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes à 500 francs le kilogramme. L'insécurité y est pour quelque chose. Des champs ont été brûlés. Aujourd'hui, moi, je vends le kilo à 450 francs. Pour moi, ce n'est ni l'embargo ni l'insécurité. C'est la campagne agricole même qui n'a pas été bonne. En tout cas, c'est en ce mois de Ramadan que le mil est prisé.
Cependant, une amélioration est constatée sur le prix de recharge du gaz. Le coût de la bonbonne de gaz de 6 kg, qui était vendue à 6 000 francs ou plus selon les lieux, a diminué depuis quelques jours. Les vendeurs justifient cette réduction par le paiement d'une partie de l'argent que le gouvernement devait aux importateurs.
Comment ? C'est 3 000, l'autre c'est 3 500, 3 kilos c'est 2 000 francs, 10 kilos c'est 12 000. Le gouvernement, les importateurs de gaz, ils n'ont pas essayé de réunir, fixer un prix abordable à tous les clients.
On vend les gaz ici, à 3 500. 12 kilos, on vend ça à 12 000 francs. Pour que tout le monde puisse avoir les gaz à bon. Le gouvernement a promis qu'ils vont régler tous les problèmes de gaz au Mali dans peu de temps.
Quant aux consommateurs, ils souhaitent une stabilisation de ces prix afin de permettre à la population de s'approvisionner à un coût raisonnable.
La transition est toute trouvée pour parler de gastronomie durant cette période de Ramadan. Dans beaucoup de familles au Mali, le Ramadan c'est aussi un moment de partage et de convivialité. À cette occasion, elles sont nombreuses les personnes qui offrent des plats spéciaux à leurs aînés ou belles familles. Cependant, cette tradition bien appréciée par des traditionalistes devient de plus en plus irréaliste. irréalisable. J'y arrive à cause de la cherté de la vie, soulignent certains citoyens. C'est dans ce contexte qu'est intervenue cette année la Journée internationale de la gastronomie célébrée le 14 avril. Notre reporter Fatih Yattara s'est intéressé à la question. Voici son reportage.
Mariam Djan, une femme de 35 ans, est nouvellement mariée. Elle dit avoir préparé des plats spéciaux pour sa belle famille.
J'ai préparé un large plat de poulet garni de frites et de la banane plantain pour ma belle famille. J'ai aussi accompagné le plat avec de la boisson et de l'eau minérale. Ils étaient vraiment contents.
Ce n'est pas le cas de cette dame qui a requis l'anonymat. Selon elle, à cause de la cherté de la vie, elle n'a pas pu offrir de plat à sa belle famille. Mais cela est mal vu par ma belle famille, déplore notre interlocutrice.
Je respecte cette tradition depuis que je suis venue dans la famille. Mais cette année, je n'ai pas pu faire car les temps sont durs. Mes belles-sœurs me montraient en plaisantant que j'ai failli. Mais que faire?
Des observateurs regrette cette situation. Selon les sociologues, Dr Kawili Togula, le don du plat est juste un témoignage du respect et le renforcement des liens fraternels et non une obligation.
Nulle part, cette religion islamique-là ne souligne le caractère obligatoire de ce cadeau-là. Et donc, en principe, pour qui a bien compris, ça ne devrait pas être une source de conflit, une source de mésentente.
Rappelons que les plats offerts diffèrent selon les régions et les ethnies. Si au sud, c'est les fritures ou les grillades, au nord, c'est généralement les tukasu, les wijila ou les Almargamafé au Sinacel.
Parlons de boissons à présent. Le Banihari, j'espère que ça vous dit quelque chose. C'est le nom d'une boisson traditionnelle à Tombouctou. C'est une recette à base d'ingrédients locaux. Elle est fréquemment consommée pendant le Ramadan. Selon la tradition de Tombouctou, cette boisson permet aux jeûneurs d'étancher véritablement leur soif. Mais elle aurait aussi des vertus sur la santé humaine. Reportage de notre correspondante à Tombouctou, Maïmouna Moro.
Le Banihari est une recette typiquement tomboxienne à cause du climat et de l'abondance de ses ingrédients dans la région. Il est préparé à base d'eau, de cumin, de tamin, communément appelé buana en bambara, de sel et de lait caillé. Certaines personnes ajoutent également du sucre. Pendant le mois de carême, les familles offrent du Banihari gratuitement aux jeûneurs en guise de sacrifice et d'entraide. C'est le cas de Mouneissa Alpha Omar qui nous explique également la préparation de cette boisson.
Nous utilisons du piment, du cumin, du tanin, du poivre noir, du lait caillé et un peu de farine de riz pour la préparation du Banihari. Cette boisson est un héritage. Elle lutte contre la fatigue et la carence alimentaire.
Au-delà de la culture, le Banihari a aussi des effets thérapeutiques sur le jeûneur, nous explique Dr Salah Meiga, promoteur des cliniques.
Ce mélange des 5 produits permet à la personne d'étancher sa soif très rapidement parce que chacun de ces produits a des effets positifs sur la santé. Bani, ça permet de dégraisser la personne, car ou bien ça permet de prévenir un problème de cœur parce que ça diminue le taux de cholestérol, le taux de graisse dans l'organisme. Donc ça élimine aussi certains toxiques de l'organisme. Ça a un rôle antispasmodique. Quand il y a des douleurs au niveau des intestins ou de l'estomac, ça permet de diminuer ça.
Grâce à ces bienfaits, le Banihari est en train de traverser des horizons. Certains jeûneurs témoignent qu'avec du jus de Banihari, l'inconfort digestif après la rupture du jeûne disparaît. De Tombouctou, Maïmouna Mourou, pour Studio Tamani.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
Écho de nos régions, commençons par Yorosso, où 4 hommes en mission à Boura pour l'entretien des installations d'un réseau de téléphonie mobile ont été enlevés mardi dernier vers 11h par des hommes armés. Selon des témoins sur place, plus d'une vingtaine d'hommes lourdement armés à moto se sont présentés sur le site du réseau mobile où ils travaillaient. Ils ont été contraints de les suivre pour une destination inconnue. De Yorosso, cap sur Baflabé, où un garçon de 6 ans s'est noyé dans le fleuve Bakoui ce mardi à Walia. Selon des sources locales, la victime serait partie avec ses camarades au fleuve vers le crépuscule pour se baigner. Les mêmes sources rapportent que son corps a été repêché quelques heures après sa noyade. L'enterrement a eu lieu sur place après la prière du crépuscule. Rappelons que cela fait la 4e noyade en l'espace de 2 mois dans la même commune. Terminons le tour d'horizon de l'actualité régionale par Massina, où une vingtaine de femmes leaders du cercle ont été outillées cette semaine sur les conditions d'accès des femmes à la terre. La rencontre de 3 jours a pris fin mardi dernier. L'objectif, selon les organisateurs, est non seulement de permettre aux femmes d'accéder aux terres, mais aussi mais aussi aux postes électifs. Il s'agissait aussi de les amener à pouvoir élaborer un plan de plaidoyer pour la recherche de partenariats. Elle a été organisée par la plateforme Maya Dambé avec l'appui financier de l'ONG CARE International. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. C'était à la présentation Mariam Maïga. Mamadou Ouattara a assuré la technique. Vous pouvez réécouter toutes ces informations sur notre site internet au www.studiotamani.org ou en appelant gratuitement sur Viamo au 37 321. Ne décrochez pas car l'info continue. Les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 commenceront au cours du mois de juin prochain. Les Aigles du Mali sont dans le groupe G. Ils sont avec le Congo-Brazzaville, la Gambie et le Soudan du Sud. Le tirage au sort a eu lieu mardi dernier à Johannesburg, en Afrique du Sud. Quelles sont les chances du Mali? Moussa Bouli, journaliste et consultant sportif, répond aux questions d'Oumar Ouigalo.
Les chances du Mali sont aussi réelles que tous nos adversaires, notamment le Congo-Brazzaville, la Gambie et le Soudan du Sud. Ce sont des adversaires qui ne sont pas inconnus, ça c'est déjà un atout parce qu'on a affronté la Gambie lors de la dernière CAN au Cameroun. Pour la CAN 2019, je pense aussi que nous étions dans les mêmes groupes que le Soudan du Sud avec 3-0 à Bamako, 3-0 au retour chez eux. Et le Congo, c'est un adversaire qui nous est très connu, très familier. Je pense que c'est à nous de croire à notre chance de se qualifier et de donner les moyens aux jeunes et à leur encadrement technique pour atteindre cet objectif.
Aujourd'hui, faut-il croire à cette équipe malienne?
Ces derniers temps, on n'a pas atteint nos objectifs, notamment on n'a pas fait la prestation attendue à la CAN 2019. On est passé à côté d'une qualification historique à la Coupe du Monde, mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a un travail exceptionnel qui a été fait par l'encadrement technique avec des jeunes talents pour conforter et consolider les acquis tout en tirant les leçons de ce secteur. C'est ce qui permettra à l'équipe vraiment d'aller monter en puissance.
Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut changer dans les tactiques?
Je pense que vous avez touché du doigt le problème fondamental aujourd'hui de l'équipe nationale. Elle ne marque pas. Pourquoi elle ne marque pas? L'animation offensive laisse à désirer. On n'a jamais été dominé par nos adversaires et on s'est toujours procuré les meilleures occasions que nos adversaires, mais au final, c'est nous qui perdons.
Concrètement, qu'est-ce qu'il faut corriger à ce niveau?
Le nouvel entraîneur va étudier et trouver la solution parce que on a des attaquants de pointe aujourd'hui, Dieu merci. Et maintenant, qu'est-ce qui ne marche pas entre la ligne médiane et le secteur offensif? Parce que tout le problème est là. Le rappel de certains joueurs pour la CAN a presque perturbé l'équilibre au niveau de l'animation offensive des Aigles. Ce qui fait qu'on marquait. On avait retrouvé le chemin de filet pendant les éliminatoires de la Coupe du Monde et même de la CAN, même si on ne marquait pas assez de vie. Mais Ibrahim Koné, quand il a été convoqué, il a presque marqué à toutes les rencontres à laquelle il a participé. Subitement, ça ne marche pas à la CAN.
Aujourd'hui, les trois autres nations que nous allons croiser sont-elles tenables?
Il faut aborder chaque rencontre selon les réalités du moment. Vous avez vu la Gambie. Pour nous, à la CAN, on allait facilement s'en sortir avec la Gambie et la Mauritanie. Mais c'est vrai qu'on a battu la Mauritanie avec un certain écart, mais la Gambie, ça n'a pas été facile parce qu'ils n'ont pas le même système de jeu. Chaque équipe a sa chance. C'est à nous maintenant de nous donner des atouts pour dominer les autres.